RCF.
Mickaël Correia, le football, ce sont bien sûr des joueurs qui s'affrontent sur un terrain et un arbitre. Mais sans les supporters, il n'y aurait pas de foot, selon vous ?
C'est vrai que dans mon livre, dans l'histoire populaire du football, j'essaie de vraiment remettre en avant un acteur qui est vraiment oublié de l'histoire institutionnelle du football, qui est le supporter, effectivement. Après, il faut savoir que cette question du supporter, elle est relativement récente dans l'histoire, dans le sens où avant la Seconde Guerre mondiale, le football était le loisir populaire par excellence. C'est vrai que c'était des tribunes relativement familiales, mais après-guerre, il va avoir un triple mouvement. Il va avoir, premièrement, la fin des grandes communautés ouvrières, des grands quartiers ouvriers.
Vous parlez de l'Angleterre en particulier.
Oui,
là,
je parle vraiment pour revenir à l'Angleterre, un peu en Italie aussi. Donc la fin des grands quartiers ouvriers, bon, qui disparaissent parce qu'ils ont été soit bombardés ou soit il y a une grande restructuration urbaine et c'est le début des banlieues, des grands HLM, etc. Il y a l'avènement de la société de consommation aussi, qui fait que le football devient vraiment un produit marchand. Et puis il y a aussi l'arrivée des postes de télé dans les foyer populaire, c'est qu'on va commencer à regarder le foot non plus au stade mais à la télévision.
Et donc tout ça fait que...
Il y a
une implosion en fait de la communauté que représentaient les supporters.
Oui, voilà, bah, il y a vraiment, et donc le troisième élément, pardon, c'est vraiment l'avènement des premières bandes juvéniles, des premières cultures juvéniles, des premiers adolescents. Alors en France, ce qu'on connaît vraiment, c'est les blousons noirs. En Angleterre, il va y avoir ce qu'on appelle les Teddy Boys, les Mods, les Hard Mods, les Skinheads, etc. Et c'est vrai que pour ces jeunes rebelles qui ont envie de refaire communauté, comme le quartier ouvrier n'existe plus, ils vont investir un nouveau territoire qui va être les tribunes des stades. Et c'est vrai que le club va être un espèce de substitut symbolique aux anciennes communautés ouvrières et la tribune va être le nouveau territoire à défendre, quoi.
Donc avec essentiellement une population un peu rebelle.
Alors au début oui, très rebelle, très d'origine populaire aussi, et ça a donné naissance à une vraie culture supporter, donc encore une fois dans deux pays, donc la fameuse culture hooligans en Angleterre qui va émerger à la fin des années 60, début des années 70, où c'est vraiment des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans qui ont vraiment investi ce qu'on appelle les virages, hein, les ends, c'est la partie derrière les buts, c'est là où les places sont moins chères, et en Italie il va avoir un autre mouvement, donc encore une fois ces mêmes jeunes gens rebelles, mais eux qui vont être nourris à autre chose, c'est les grands mouvements sociaux qui éclatent en Italie de 1968 à 1978, ce qu'on va appeler aussi en Italie les fameuses années de plomb, quoi. Et eux, les Italiens, ils vont apporter autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à importer des pratiques, des cortèges politiques dans les stades, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser en petits groupes, ils vont être autonomes financièrement, il va avoir aussi une certaine culture de l'anonymat, et ils vont aussi s'organiser pour au même titre que défendre à tout prix des revendications sociales, et il faut s'organiser pour la lutte, il va aussi s'organiser et tout sacrifier pour encourager son équipe, et ça a donné lieu à une autre culture qui pareil va émerger au milieu des années 70 qu'on va dénommer la culture ultra. Donc on va avoir comme ça en Angleterre la culture hooligans et la culture ultra qui vont être deux cultures juvéniles et deux cultures de supportering relativement organisées, et c'est vrai que c'est dans ces années-là qu'on va avoir émerger vraiment la figure du supporter.
Le père de famille ou disons le supporter disons plus rangé, lui regarde les matchs à la télé.
Il va plutôt regarder. C'est vrai qu'on va vraiment, il va vraiment plutôt regarder le match à la télé. Ça n'empêche pas qu'on va aller voir dans les tribunes aussi, mais non plus dans les virages dans les stades, hein, derrière les buts, mais vraiment dans les tribunes plus officielles, avec des places, avec les places assises, et dans les ends, hein, dans les virages, donc derrière les buts, on va plutôt être debout. Donc on va avoir comme ça une composition sociale dans les tribunes qui va émerger, avec sur les tribunes latérales et assis les notables, les gens les plus sages, les familles, et dans les virages, derrière les buts, les supporters les plus fervents, les plus agités.
Now we're going for more. The crowd is screaming, here.
you sing. That's right. Football's coming home.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Agité jusqu'à quelquefois donc de vrais débordements et des violences. Est-ce que c'est réducteur d'associer immédiatement ses supporters à ce type de comportement ?
Alors effectivement, il va avoir un vrai focus médiatique, alors notamment en Angleterre à partir des années 70, où les tabloïds vont s'en donner à cœur joie. Ils vont même un peu aiguiser ces rivalités dans le sens où certains tabloïds vont quand même mettre en place ce qu'ils vont appeler des ligues de violence. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire un classement entre les groupes de supporters les plus violents. Et ça, ça va vraiment participer à aiguiser ces violences-là. Il va y avoir aussi à partir des années 70 pas mal de groupuscules d'extrême droite ou néo-nazis qui vont vraiment infiltrer les tribunes et un peu jouer sur cette question identitaire-là. Comme je disais au début, il y a vraiment la volonté de défendre son club, de défendre son territoire, sa tribune. Et c'est vrai que l'extrême droite va très bien manipuler cette question-là et jouer sur ce réflexe identitaire, quoi. Donc c'est vrai que le mouvement Ligal, à partir des années, fin des années 70, début des années 80, va vraiment commencer à être un peu plus virulent et beaucoup plus associé aussi à l'identité blanche, à un réflexe assez identitaire.
Et donc c'est le calendrier des matchs, dites-vous, qui vient signaler les occasions d'affrontement.
Oui, c'est vrai qu'à partir d'un moment, dans certaines franges hooligans en Angleterre, la violence, elle va plus être une façon de remettre en jeu à la sortie du match la rivalité, mais elle va devenir un match à part entière, et c'est vrai que ça va devenir une fin en soi, la violence va devenir vraiment une fin en elle-même. Mais encore une fois, c'est ce que j'essaie de vraiment mettre en lumière dans le livre, c'est que cette culture hooligans là, elle est très connue pour ses débordements violents, mais moi ce que j'essaie de mettre en avant, c'est avant toute cette culture là des années 60, 70, 80, 90, où on avait des jeunes gens qui voyageaient ensemble, qui mangeaient ensemble, qui chantaient ensemble, bref, en un mot, qui faisaient vraiment communauté avec plein de pratiques propres à cette culture-là. Faut imaginer à l'époque, il y a ce qu'on appelait le on the jib, voyager on the jib pour les jeunes gamins de Liverpool, c'était on va essayer de voyager gratuitement en fraudant les transports, on va essayer de frauder aussi l'entrée du stade, on va dormir dehors. Bref, il y a vraiment l'idée de voyager en groupe comme ça, mais comme c'est des jeunes gens qui sont ultra précarisés au chômage, c'est une façon aussi de vivre un peu l'aventure, mais quitte à frauder, à voler, etc. Donc,
est-ce que dans ces années-là, il y a aussi des grands noms qui émergent dans le foot ?
Bon, c'est vrai qu'aussi dans les années 80, enfin notamment, oui, dans les années 80, il y a, bon, et notamment au sein du championnat italien, il y a des très grands noms. Donc, il y a le fameux Platini qui est à la Juventus, il y a Socrates, le grand joueur brésilien qui est à la Fiorentina, il y a Maradona qui est à Naples. Et c'est vrai que les rivalités vont être extrêmement exacerbées dans la première division italienne. Et pour revenir à ce que je disais au début, c'est vrai que la culture ultra, elle va vraiment exploser dans ces années-là, quoi. On est vraiment aussi dans un grand mouvement d'expansion du foot business qui va aussi populariser grandement le football. Après, il y aura un grand événement clé qui va un peu mettre fin, et notamment à cette culture-là, notamment en Ligue 1, c'est le fameux drame du Heysel en 1985.
Donc en Belgique.
En Belgique, à Bruxelles. Donc c'est la finale de la Coupe des clubs champions, qui est donc l'ancêtre de la Champions League, où la Juventus en finale affronte Liverpool. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir plein de jeunes, encore une fois, de Liverpool qui vont débarquer et qui vont mettre en place, enfin dès le début du match, vont mettre en place un jeu. C'est un jeu qui est très commun à l'époque dans les tribunes anglaises, qui s'appelle le tanking off an end. C'est-à-dire qu'on va essayer de voler la tribune. On est toujours dans ce truc là territorial. On va essayer de voler la tribune adverse, de se déplacer dans les tribunes d'à côté, s'incruster dans la tribune d'à côté. Sauf qu'à côté, qu'est-ce qu'il y a ? On a des supporters belges d'origine italienne de la Juventus qui connaissent pas cette pratique et qui vont voir cette horde de jeunes supporters débouler vers eux, et ça a très mal se passer, puisque il y a un mur du stade, qui est un stade à l'époque quand même très vétuste, qui va s'effondrer et qui va provoquer quand même une quarantaine de morts suite à cet effondrement.
Et en quoi est-ce que ça constitue un tournant ?
ça constitue un grand tournant d'un point de vue répressif, puisque déjà en Europe, on va être assez exaspéré par ces hooligans qui sèment un peu la pagaille au cours de leur déplacement durant le championnat européen. Et puis il y a aussi Margaret Thatcher à l'époque en Angleterre, qui va vraiment faire de la figure du hooligans une des figures qu'il faut écraser, quoi. Elle va dire vraiment, il y a la figure de l'ouvrier mineur syndicaliste, il y a la figure du punk contestataire et la figure du hooligans, ces trois figures rebelles contestataires assez significatif du milieu ouvrier qu'elle veut écraser. Et c'est vrai qu'il va avoir dès ces années-là un arsenal juridique et répressif qui va être mis en place contre ses supporters virulents.
Bon, à côté de ça, on voit aussi des tas de supporters assister au match dans le plus grand calme et se retrouver sur les places de village parce qu'on installe des écrans géants ou des télévisions bars.
Oui, exactement.
Ça aussi, les supporters.
C'est avant tout ça, c'est ce que j'essaie de mettre en avant dans le livre, c'est toutes les sociabilités qu'il y a autour, quoi. Et que ce soit chez les hooligans, chez les ultras, chez les supporters lambda, il y a aussi toute cette culture d'aller, de se retrouver avant le match, pendant le match, après le match, les échanges qu'il peut avoir autour. Bref, il y a vraiment cet espace de faire communion, de connaître aussi un peu l'histoire sociale de son club, de mettre en avant l'identité collective de sa ville, hein, que ce soit pour revenir à la France, Lens, par exemple, le RC Lens, c'est l'identité ouvrière et minière qu'on va mettre en avant. À Saint-Étienne aussi, ça permet un peu aussi de... Voilà, il y a vraiment un lien entre l'identité collective et l'histoire sociale de sa ville qui peut être mis en avant dans sa tribune. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant dans ces questions de supportering aussi.
À demain pour conclure. Merci, Michael Correia.